I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello, je suis Léa.
Et moi Mathilde.
On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast Salut ça va by Take Care.
Je suis psychologue clinicienne.
Et moi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux.
On revient dans cette saison 2 pour vous poser la question comment ça va
et accueillir à notre micro vos parcours de vie. Bon épisode. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Salut ça va. Je suis très heureuse d'être dans cette dernière session d'enregistrement.
Et oui, déjà la fin.
Je pense que vous n'allez pas trop le ressentir comme ça parce que les épisodes ne sont pas forcément postés dans l'ordre. Mais pour nous, c'est notre dernière session de la saison 2.
Oui.
C'est fou, ça passe trop vite.
À Montpellier.
Et on est très heureuse avec Mathilde d'accueillir Estelle, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter Estelle pour tous ceux qui nous écoutent?
Bonjour à tous et merci à vous de m'accueillir chez vous. Donc je m'appelle Estelle, j'ai 26 ans et je suis avocate au barreau de Montpellier depuis un peu plus d'un an aujourd'hui. Et je suis aussi chargée d'enseignement à la faculté de droit de Montpellier.
Ah oui, t'as les double casquettes. C'est quoi tes motivations? Enfin, pourquoi est-ce que tu as voulu être avocate et après l'enseignement? Comment ça t'est venu?
Alors, c'est venu tout à fait par hasard. J'avais fait un bac ES quand j'étais au lycée et à l'époque, il n'y avait pas Parcoursup et on pouvait s'inscrire dans absolument toutes les facultés. Donc j'avais postulé dans une dizaine de facs. Et puis au moment voulu, il a fallu que je fasse un choix. Et j'avais toujours entendu dire que le droit menait à tout. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une fac de droit. Et après avoir raté ma première année, ce que j'ai vécu quand même comme un gros échec, j'ai passé les concours pour intégrer la police nationale. Donc j'avais réussi le concours de gardien de la paix et je devais intégrer donc l'école de police. Et au fur et à mesure des années, comme j'avais des bonnes notes et que j'arrivais finalement à passer les différentes étapes, chaque année je repoussais mon entrée à l'école de police. Et un jour m'est venue l'idée de passer l'examen pour entrer à l'école des avocats, que j'ai eu du premier coup. Et du coup, tout s'est enchaîné et voilà.
Ah ouais, c'est fou comme parcours. Du coup, ça, c'est pas forcément la voie entre guillemets classique. C'est vrai que c'est des études qui sont déjà assez intenses. Quand on regarde un peu les clichés, c'est un peu médecine et droit. Fac de droit,
ouais,
c'est un peu les deux trucs. Enfin, pour avoir eu un compagnon en études de
médecine. Tu sais que j'ai fait une année de droit,
c'est
avant
vrai
de partir en psycho. Ouais. Ah ouais. J'ai loupé mon année à 0,07 points.
Ah ouais, tu vois, mais comme quoi, des fois, la vie t'apprend après coup que finalement.
Mais c'était particulier, les études de droit. Tu les as vécues comment, toi?
C'est vrai que la première année, je ne sais pas si tu étais à Montpellier aussi.
Oui, j'étais à Montpellier, ouais.
La première année, c'est vrai qu'elle est quand même très particulière. Et pour moi, c'est vraiment la plus dure à passer. Et après, je ne vais pas dire que c'est plus simple, mais une fois qu'on a un peu compris la méthode, ça se fait beaucoup plus facilement.
Oui, il y a une vraie méthode particulière au droit, qu'on voit qu'en droit, la façon de
Mais c'est du par cœur, c'est...
Les gens pensent qu'on apprend les codes par cœur, mais pas du tout.
Heureusement.
Heureusement.
C'est un peu gros quand
même. Il y a beaucoup de choses qu'on est obligé d'apprendre par cœur, mais après, c'est plus de l'application. Et non, j'en garde un très bon souvenir de mes études. C'était vraiment cette année géniale, très très intense, puisque vraiment ça a été cette année de révision toutes les semaines, tous les week-ends. Et ça a été très intense, mais ça a été très passionnant et je regrette d'avoir quitté la fac. C'est pour ça que j'y suis retournée pour donner des travaux dirigés parce que ça me manquait.
Ah, c'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est pas mal d'être aussi de l'autre côté, tu vois. Mais en termes de santé mentale, à ce moment-là, comment est-ce que toi, avec le recul, tu te situais? Est-ce que tu étais tellement dedans que peut-être tu te posais même pas la question? Ou est-ce que tu te sentais surmenée? Ou alors le plaisir, est-ce que tu apprenais, te permettait de tenir le cap, entre guillemets?
Je pense que quand on est dedans, on se rend pas forcément compte de ce qu'on s'inflige, entre guillemets. Et c'est vrai que moi, j'avais vraiment un rythme. Bah, déjà, toute la semaine, il y avait les cours, les TD. Le soir, je préparais les différents devoirs. Et je passais mes week-ends à la bibliothèque, à réviser, à faire des fiches. Et c'est vrai que chaque année, une fois que bah, l'année universitaire était terminée, et que les partiels étaient passés, il y avait toujours une période de 2-3 semaines où en fait je me retrouvais et je savais plus quoi faire. Ouais. Je savais plus.
Ça prend tellement de temps.
Mais c'est ça. Et en fait, ma vie était tellement rythmée autour de bah, des révisions, des devoirs, que bah, quand c'était terminé, j'étais presque perdue. Et ouais. Non, ça, c'est vrai que ça, c'était particulier. Et puis quand on est dedans, on ne s'en rend pas forcément compte. Et puis on est entouré de gens qui font... Je ne vais pas mentir, hein, les gens de droit restent avec des gens de droit. Ouais. Et en fait, on fait tous partie de la même fac et on vit tous la même chose. Et donc, on ne se rend pas forcément compte que réviser jusqu'à 23h tous les soirs et tous les week-ends, c'est pas... Enfin, je ne sais pas si c'est normal ou pas normal, il n'y a pas de normalité.
T'arrivais à prendre des moments et des temps pour toi ou pas ?
Ça dépendait, mais on va dire que dès que je ne révisais pas, surtout en période de partiel, je culpabilisais beaucoup. Et c'est vrai que je m'en rends compte maintenant que bah, finalement, faire une pause de quelques heures, c'est peut-être beaucoup plus...
Bénéfique.
Oui, voilà, exactement.
Et en fait, on voit souvent les pauses comme une perte de temps. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, mais je suis pas en train de réviser. Mais du coup, parfois, on se retrouve dans un cercle un peu. En fait, c'est pas du tout du temps perdu. C'est au contraire, c'est un temps qui est investi pour récupérer de l'énergie qui va te servir à réviser. Bah,
comme un sportif.
C'est hyper important de faire ces moments de pause parce que déjà, le cerveau, il a besoin de ça pour fonctionner. Et puis surtout, oui, on récupère une énergie qui va nous permettre, enfin, qui va pouvoir être réinvestie parce que. C'est vrai que du coup, souvent, c'est des marathons. Hein, donc, pour courir un marathon, en fait, il faut avoir des moments de pause. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, faut que je révise. On s'écoute plus. Du coup, on arrive à des moments où, en fait, on devrait faire une pause et on révise. Donc, on n'est pas du tout productif. On arrive à un moment où on n'y arrive plus et du coup, on révise plus. Mmh. Et même ces moments-là, du coup, c'est pas des vrais temps pour soi parce qu'on est encore en train de se dire ah mais je suis pas en train de réviser, du coup, bon, on a toutes ces ruminations sur probablement l'échec, et du coup, c'est aussi des temps que l'on pourrait prendre pour soi qui du coup sont consacrés aux révisions et qui du coup font que ben en fait, on peut vite être épuisé et se sentir dépassé.
Je pense que complètement, mais même ça se retrouve dans beaucoup de choses liées à la performance en fait. C'est-à-dire que on parle beaucoup de comment performer. Le côté la productivité, etc., mais pas forcément l'après ou le pendant ou le milieu en fait. Et clairement, un sportif, je veux dire, sans jour de repos, son corps ne suit pas. Et je pense qu'il y a ce truc là qui est pas encore forcément démocratisé pour la tête. Et après, en même temps, on peut pas s'en vouloir aux étudiants parce que c'est tellement de pression. Je veux dire, moi je me souviens de Samuel en études de médecine. C'était un truc de fou quoi, il n'avait plus de vie et bon, c'est un sacrifice pour plus tard.
Souvent il y a cette chose là de se dire quand on est étudiant on joue un peu sa vie. On joue sa vie, enfin il y a vraiment, quand on est dedans il y a cette idée là parce que déjà parce qu'en plus en France on est quand même très dans le diplôme etc et pour certaines spécialités c'est nécessaire, enfin je veux dire voilà, mais on peut pas, voilà, à un moment donné on peut pas tout mais du coup c'est des choses qui comptent et qui enfin c'est un accès à, si j'ai ce diplôme là je vais pouvoir faire le métier que j'ai envie de faire. Donc t'imagines si t'as pas tu vois,
mais c'est pour ça heureusement que toi t'avais du plaisir en fait, et je pense
heureusement, mais après effectivement il y a vraiment cette peur de l'échec. Et bon, après, on a tous des motivations différentes. Mais moi, je sais que je me disais, c'est pas possible, je peux pas échouer parce que je vais me retrouver sans rien. Si je me retrouve sans rien, je vais être à la rue et je vais rien faire de ma vie.
Le gros scénario catastrophe.
Oui, c'est ça. Et puis, on a tellement vraiment cette culture de il faut travailler, il faut réviser tous les week-ends. Et puis, plus tu vas travailler, plus tu auras des meilleures notes et plus... Voilà. Et il y a vraiment cette culture. Je me rends compte, après, je pense que d'une faculté à une autre, c'est différent. Mais vraiment... je pense que ce cliché droit-médecine, il est un peu vrai quand même.
Et tu vois, je me demande si le fait que... Alors, peut-être encore cliché, mais quand même, pour l'avoir vécu de près pour le médecine, je ne sais pas si c'est le cas pour droit, mais c'est quand même dans les moments où les étudiants se retrouvent entre eux, les week-ends d'intégration, etc., il y a quand même... en médecine, c'était le cas quand même. Une très grande facilité à boire à outrance, à se mettre dans des comportements... très excessif en termes de substances, d'état, de tout ce que tu veux. Et je me dis, mais en fait, c'est aussi, je pense, l'échappatoire qui est à la mesure de l'intensité de ce qu'ils vivent dans leurs études. Je sais pas si toi c'était le cas, tout ce qui était week-end d'inté, soirée, etc. Mais la vie étudiante, en tout cas en médecine, je trouvais que c'était un peu la débauche. Ah, pas pour tout le monde, mais en tout cas pour ceux qui le souhaitaient.
Enfin, moi, je pense que la vie étudiante, y a... pas tous les étudiants passent par là, mais je pense qu'il y a ce côté-là un peu aussi.
Oui, mais beaucoup plus en médecine. Il y a vraiment ce truc de médecine. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. On n'a pas vraiment de soirée d'intégration comme ils font en médecine avec le bizutage et tout ça. Chez nous, ça existe. Ça n'existe pas. Après, bon, effectivement, il y a des soirées étudiantes où chaque master propose ses soirées toutes les semaines, etc. Donc, il y a aussi cette, cette culture de la fête, et parce que de toute façon, c'est un peu nécessaire quand même. Et puis bon, si on ne le fait pas quand on est étudiant, quand est-ce qu'on le fait ?
C'est clair.
Mais quand même, après voilà, je n'ai pas été à la fac de médecine, mais cette image que j'ai de...
On est d'accord, il y a quand même une image
qui... Ah oui. Et après, je pense qu'il y est...
Ouais, il n'y a pas de fumée sans feu.
Ouais, exactement.
Non, franchement, pour l'avoir vécu d'un peu près quand même, il y a quelques trucs. Bon, voilà, alors je pense que ça fait partie aussi de la vie étudiante. Alors, le bizutage, non, moi j'ai un regard assez critique là-dessus parce que je trouve qu'il y a vraiment pour le coup des...
Tu trouves pas que ce soit nécessaire de martyriser quelqu'un pour lui prouver son intégration, je ne comprends pas.
Que tu fais bien partie c'est de la faculté.
Wow. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont drôles, à la limite, voilà, et puis il y en a qui sont un peu dangereux. Mais
il y en a qui sortent traumatisés de leur bizutage. Hein. Ouais. Moi, j'ai déjà eu le cas de
patientes qui sortent
traumatisées de bizutage.
Ouais, bien sûr. Ouais, complètement.
Voilà. Donc, à éviter quand même si vous nous entendez.
Mais c'est vrai que la fac de droit, c'est un peu plus rigide, on va dire. Donc
oui, c'est ça.
On essaie de pas trop déborder.
Donc t'es arrivée dans ce monde un peu particulier du droit, et etc. Est-ce que ça correspondait à l'image que tu t'en faisais? Enfin, déjà, est-ce que tu t'étais fait une image de ce milieu-là? Et est-ce que t'as été déçue, pas déçue, ou au contraire, ça collait à ce que tu t'étais imaginée?
Alors, ça correspond pas du tout à l'image que j'avais du droit, et encore plus de la profession que j'exerce aujourd'hui. Parce que je pense que dans l'image de la plupart des gens, on pense à l'avocat comme dans les séries américaines, avocats qui sont hyper riches, qui roulent dans des grosses voitures, qui font des choses extraordinaires, et le quotidien n'est pas vraiment le même. Après, je pourrais pas dire que je suis déçue, ou c'est juste que ça, enfin, c'est pas du tout ce à quoi l'image que j'en avais.
Tu trouves qu'il y a des clichés au niveau de l'image qu'on a du droit, au-delà du côté américain et grosse voiture comme dans les séries, ou pas forcément?
Après, pour l'avoir vécu moi maintenant, je sais ce que c'est, mais je me permets de vous poser la question: comment vous imaginez les étudiants en droit et le droit de manière générale? Quelle image vous en avez?
Je sais pas si on est très objectif, parce que moi j'ai des avocats dans le cadre de mon travail, etc. J'ai mes avocats, donc je travaille avec eux, donc je sais comment, enfin, je vois ce côté qu'on ne voit pas beaucoup dans la culture populaire, mais extrêmement administratif, parfois très chronophage, très long, où il faut beaucoup de patience, parce qu'en plus le système judiciaire français quand même est assez lent, il faut le dire. Je pense que, donc pour en tout cas pour les affaires dans lesquelles moi je suis de près, parce que ça me concerne, c'est une image. Enfin, il y a peut-être le côté prestige qui peut rester. Forcément prestige associé à la richesse ou associé au bling-bling.
Non, c'est que c'est socialement bien perçu de faire du droit.
Oui, je pense que tu dis que tu fais du droit, il y a une espèce de reconnaissance immédiate, de comme quand tu dis que tu es en médecine. Tu vois ce que je veux dire? Par la plupart des gens, ça correspond à...
Après, tout à l'heure, tu disais rigide. Moi, pour le coup, c'est une image que j'avais du droit et que j'ai toujours en
la rigidité.
La rigidité.
Mais la rigidité rigueur ou rigidité dans le sens fermeture d'esprit, tu vois?
Un peu des deux, je crois.
Ah ouais?
Mais un peu des deux, mais en même temps, je pense que t'appliques du droit. Enfin, tu vois, à un moment donné, c'est carré. Enfin, c'est la loi, quoi. Tu peux pas te dire
non, je comprends. Moi, je le vois, mais dans le sens rigueur, je comprends, De toute façon, c'est indispensable. Enfin, je veux dire.
Mais du coup, c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus.
Pour être dedans maintenant, ce côté rigide, que ça soit rigueur ou assez fermé d'esprit, finalement, je me rends compte que c'est la réalité. Mais moi, j'avais vraiment l'image des gens en droit, des avocats qui étaient toujours hyper bien habillés, sur des talons aiguilles, toujours hyper bien coiffés. Et aujourd'hui, ça se démocratise un peu, le fait de porter des baskets, d'être en jean, d'être un peu à l'arrache, quoi, finalement. Mais c'est vrai que c'est encore très compliqué de, par exemple, d'aller au tribunal en basket.
Ah ouais.
Il y en a beaucoup qui, bon, c'est souvent quand même des vieux confrères, mais qui considèrent que c'est un manque de respect pour les magistrats, un manque de délicatesse, que c'est pas professionnel, alors que bon, ben...
Oui, ça n'enlève rien.
Je suis en t-shirt, en jean. Ouais. Et puis ça m'empêche pas, bon, sans prétendre être une avocate excellente, mais ça m'empêche pas de faire mon travail, que je sois en talon aiguille ou en basket, c'est la même chose.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais tu vois, est-ce que c'est autant appliqué aux hommes ?
Ben, finalement, après, bon, je regarde autour de moi, que ce soit dans mon cabinet ou les confrères que j'ai l'habitude de croiser, c'est vrai que la plupart sont toujours en costume. Ouais. Je croise rarement des confrères en jean basket, alors que c'est vrai que nous, les femmes, on a un style qui est beaucoup plus vaste. Mmh. Effectivement, il y en a qui sont toujours perchés sur leur Louboutin, et puis il y en a comme moi qui sont quasiment tout le temps en basket.
En fait, je pense que déjà, eux ne sont pas sur talons. C'est très inconfortable aussi. Ouais. Je veux dire,
Puis oui, selon ce qu'on fait, quand on court d'une audience à une autre. Mm-hmm. Ou après, bon, moi, personnellement, donc, je pratique le droit immobilier, donc je suis souvent en expertise judiciaire. Donc ça veut dire que je peux être amenée à me balader sur des chantiers.
Bien sûr.
Donc en talon aiguille, c'est pas forcément très pratique. Quoi.
Mais c'est pas adapté.
C'est pas adapté. Donc,
bien que les mentalités puissent évoluer.
Et puis, toutes les femmes n'aiment pas porter des talons.
Oui,
tout simplement parce que c'est pas confortable. Ouais. Personnellement, je trouve pas ça forcément joli.
Ouais.
Et puis non, j'ai pas envie le matin de passer une heure et demie à me maquiller.
Et sous prétexte que je fais du droit.
entre guillemets, parce que j'ai un standing à respecter. Enfin, je trouve ça un peu absurde, mais je vois que ça se modernise ces dernières années. Bon, ça déplaît à certains, mais bon, heureusement là.
Ouais.
La nouvelle génération apporte un peu ce vent de fraîcheur parce que...
Bien sûr, mais c'est bien, je trouve, de ramener cette accessibilité. Tu vois, même nous, c'est vrai que c'est très important, on parle de santé mentale, mais même avec des jeunes médecins qu'on peut rencontrer, quand on voit les réseaux sociaux, le côté populaire, dans le sens rendre accessible, justement, des concepts et, on va dire, des milieux qui étaient un peu élitistes. Donc, ça va être le droit, je veux dire, c'est un jargon, si t'en as jamais fait, je veux dire, c'est fait pour pas trop que tu comprennes, quand même.
Ouais, c'est vrai.
Voilà.
Mais on aime bien aussi ce...
Ouais.
J'avoue, ça paraît un peu, malsain. Mais on aime bien ce... Ben voilà, on a fait des études pour et on se dit que finalement, bah, le plus important, c'est que nous, on comprenne, mais...
Ouais, mais même les médecins, tu vois, je pense que c'est pareil aussi. Mais après, je pense que de plus en plus, on a envie de rendre accessible, pas dans le sens les connaissances, etc., parce que les études sont là pour ça, mais plus accessible dans le sens où si demain, j'ai besoin de faire appel à un avocat ou je vais me sentir légitime de le faire, même si justement, je n'ai pas de connaissances pour ou que je n'appartiens pas à une élite... tu vois, social, et je pense que les jeunes générations participent à ça aussi, quoi.
Et les réseaux sociaux aussi.
Ouais.
De plus en plus d'avocats créent des pages, que ce soit sur Insta, sur Twitter, et partagent de plus en plus des conseils juridiques et montrent que finalement, c'est une profession comme une autre et qu'elle est accessible.
Ouais.
Bon, après, moi, je suis pas du tout encore sur... C'est vrai qu'on est un peu vieille école avec tout ce qui est réseaux sociaux, communication et tout ça. Mais je me dis que finalement, ça serait peut-être une bonne idée de créer une page pour partager des astuces. Et puis même pour donner envie aux gens de venir vers nous sans forcément... parce que avoir besoin d'un avocat, c'est pas que quand on a un problème, un problème grave. Et on peut avoir affaire à un avocat pour... absolument presque tout et rien, quoi.
Donc,
oui, puis même sur peut-être parfois même donner des conseils sur l'accessibilité ou non des avocats, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que si on doit avoir un avocat, on va payer cher. Non, mais c'est vrai, et que du coup il y a des gens qui ne s'autorisent pas aussi à aller demander conseil, ou alors qu'en fait aujourd'hui il y a plein de choses qui sont accessibles pour faciliter l'accès au droit, en fait, et à une prise en charge à ce niveau là donc
Non, oui, c'est important, ça participe à démocratiser aussi,
tout à fait.
Cette accessibilité.
Il y a de plus en plus à la télé des pages publicitées, notamment du Conseil national des barreaux, qui, bon, les publicités, je trouve, sont très mal faites, mais bon, au-delà de ça, ouais. Qui explique justement toutes les facettes d'un avocat. Et j'ai vu aussi, parce que bon, chez moi, j'ai pas de télévision, donc je regarde jamais la publicité, mais la dernière fois, j'étais chez mes parents et j'ai vu qu'il y avait une publicité qui était passée pour l'aide juridictionnelle, ouais. Et qui expliquait qu'effectivement, les personnes qui avaient des faibles revenus pouvaient bénéficier de l'aide juridictionnelle et avoir un avocat. Pas gratuit, mais je veux dire un avocat qui est payé directement par l'État. Et ça, je pense que de nombreuses personnes ne le savent pas. Oui.
Même dans les assurances des banques, tout à fait, oui, des cartes bancaires, protection juridique. Tout à fait. Donc voilà, c'était le petit message prévention, prévention droit. Vous avez le droit. toi, dans ton quotidien, j'imagine que c'est quand même assez chargé, parce que pour le coup, la charge de travail, j'imagine que c'est quand même pas un cliché. Comment t'organises ton quotidien au niveau de ton organisation, ton, ta vie perso, ta vie pro? Comment tu fais?
Alors déjà, j'ai la chance d'habiter en face de mon cabinet. Donc, c'est-à-dire qu'il me faut à peu près 3 minutes à pied pour m'y rendre. Ça, donc déjà, bien. J'ai cette facilité de pouvoir me lever, on va dire, au dernier moment. Ou en tout cas, me lever tôt et pouvoir profiter sans avoir les trajets qui peuvent être très longs. Et après, bon, c'est vrai que je suis plus du matin. Donc, on va dire que je suis au cabinet vers 8h30 le matin. Ça dépend vraiment des semaines. Et c'est vrai que c'est ce qui est un peu, je trouve, magique avec cette profession. C'est que les journées ne se ressemblent pas. Mmh. Et qu'une semaine, on peut rester toute la semaine au bureau et la semaine d'après avoir beaucoup de déplacements. C'est ce côté-là, un peu, je trouve, qui est super intéressant de jamais faire la même chose, finalement. Et donc, vraiment, l'organisation, ça dépend vraiment d'une semaine à une autre. Après, j'essaye de me consacrer du temps pour moi, pour faire du sport, pour prendre le temps de cuisiner, de faire des choses qui, moi, me font du bien. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment, en fait, je trouve le gros problème, c'est qu'il y a cette culture dans notre profession de faire énormément d'heures. Mmh. Et il y a vraiment cette culture de se dire si je pars à 18h, j'ai pris mon après-midi. Quoi. Et beaucoup restent hyper tard, soit vraiment pour travailler, soit pour montrer juste qu'ils sont là. Parce qu'il y a tellement cette culture de plus tu vas rester tard, plus tu as du mérite et plus tu es un bon avocat, que certains n'arrivent pas à se détacher de tout ça.
C'est toujours le regard de l'autre, hein.
Ah oui, oui. Et puis vraiment, encore une fois, là, pour être là alors que je suis censée être au cabinet, en partant ce matin, je me suis dit, mais imagine, tu croises quelqu'un du cabinet, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Elle va où? Elle fait quoi? Elle est censée être là? Alors qu'en fait, on est dans une profession libérale, donc on est censé pouvoir faire ce qu'on veut. Mm-hmm. Mais il y a tellement ce truc de se dire qu'il faut être présent, il faut travailler, il faut jamais s'arrêter, que c'est parfois compliqué.
Du coup, j'entends que vous vous regroupez.
Ah oui, c'est des cabinets.
Oui, mais je sais pas, moi, je me
suis... Un cabinet d'avocats, on regroupe plusieurs avocats.
Oui, mais tu t'es jamais seule dans... C'est une vraie question, hein. T'es jamais seule dans ton cabinet?
Si, alors c'est tout à fait possible. Il y a plusieurs formes d'exercice. Donc moi, personnellement, je suis avocate libérale collaboratrice. Mmh. Et donc, je travaille au sein d'un cabinet en tant que collaboratrice. Mais ce n'est pas mon cabinet, je n'ai pas de part au sein du cabinet. C'est juste que le cabinet me rémunère tous les mois pour traiter leur dossier. Et après, moi, à côté de ça, je peux avoir ma clientèle personnelle et bénéficier des locaux du cabinet. Mais
c'est pas forcément... on voyait pas forcément comme ça.
On peut tout à fait être exercer à titre individuel et avoir son propre cabinet tout seul. J'ai des amis qui sont installés tout seuls dans leur propre cabinet.
Ça change grand-chose ou pas?
C'est l'apport au début de clientèle, je pense.
C'est ça. De pouvoir... Et après, ça dépend vraiment des matières. Par exemple, ceux qui s'installent assez vite, en général, c'est ceux qui font du droit pénal. Enfin, malheureusement ou heureusement pour eux, je ne sais pas. On a une clientèle beaucoup plus rapidement. Il y a toutes les permanences qui sont mises en place, notamment les permanences garde à vue. Tu te fais arrêter, tu te retrouves en garde à vue. Tu as besoin d'un avocat, mais tu n'en as pas. Mais il y a des confrères qui sont là et qui gèrent ça. Et donc, c'est vrai qu'en faisant du droit pénal, c'est beaucoup plus facile d'avoir une clientèle dès le début et de pouvoir s'installer. Moi, dans ma matière, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Et puis aussi, il faut oser s'installer tout seul, gérer tout ce qui est administratif.
Ça peut être rassurant d'avoir des collaborateurs.
Moi, j'ai la chance d'être dans le plus gros cabinet de Montpellier. Donc, c'est vrai qu'on est quand même très nombreux à faire des matières très différentes. Et c'est super de pouvoir... dès qu'on a une question, il y a toujours quelqu'un pour pouvoir nous répondre. Ouais. Donc,
Est-ce que c'est un métier où il y a qui peut avoir de la concurrence entre confrères, entre collègues, quelque chose qui peut être un peu, pas oppressant, mais avec un peu de pression par rapport à ça?
totalement. Ouais. Entre, bah, finalement, entre confrères, déjà, c'est un peu à celui qui aura le plus de clients, celui qui gagnera le mieux sa vie, celui qui aura les plus beaux dossiers. Parce que c'est vrai, surtout à Montpellier, on est quand même très, très nombreux, donc c'est un peu compliqué. Et aussi, à l'intérieur des cabinets, on va pas se mentir. Ouais. C'est celui, finalement, j'espère que personne de mon cabinet ne m'écoutera, mais c'est à celui qui sera le mieux vu, donc celui bah, qui restera le plus tard, qui prendra le plus d'audience, qui facturera le plus pour le cabinet. Il y a vraiment...
T'arrives à t'en détacher, toi, de cette pression ?
Alors, oui, mais parce que c'est vrai que je ne suis pas très proche de, bah, de ceux qui travaillent dans mon cabinet. J'essaye justement de, bah, de, voilà, d'être sympathique quand on est au cabinet, mais mettre de ne pas, voilà, pas trop les voir à l'extérieur pour éviter justement... je trouve que c'est un peu malsain, en fait. Moi, après, voilà, personnellement,
j'ai tu t'es fait un entourage qui est toujours en lien avec le droit ou pas forcément, du coup ?
Oui, j'avoue que la plupart de mes amis aujourd'hui sont, bah, soit on fait du droit et après bon pour la plupart bah, sont avocats aussi parce que bah, on s'est suivi à l'école et aujourd'hui voilà on continue de se côtoyer. Mais c'est vrai que voilà la plupart de mon entourage a fait du droit de voilà que ce soit avocat ou autre aujourd'hui.
Oui, j'imagine que au sein mais tu le dis très bien au sein d'une même profession on partage pas toujours la même vision de la profession et on a tendance à s'entourer aussi quand on a en tout cas quand on est quand des gens qui ont le même métier aussi qui partagent la même vision de ce métier là
voilà. Exactement. Donc, et puis des gens que je trouve aussi bienveillants parce que dans la profession il y a quand même beaucoup de personnes qui sont malhonnêtes et qui sont pas très sympas, surtout avec les jeunes confrères. Donc c'est vrai que voilà, moi j'ai fait le choix de m'en
Protéger.
Exactement, et de choisir les personnes avec qui je partage mon quotidien. Mais c'est vrai que cette pression, elle est quand même pas facile au début, mais je pense que si on s'en détache pas, ça nous ronge et c'est pas le but non plus, c'est
déjà une profession. Nous fait, aller dans la performance comme tout à l'heure.
Et puis je pense que c'est une profession qui est déjà assez compliquée. Donc si on peut éviter de se rajouter des obstacles, je pense que c'est pas plus
mal. Non, mais complètement. Je sais pas si c'est ton cas, parce que vu ta spécialité, j'imagine que c'est moins peut-être fréquent que le pénal, mais est-ce que ça t'arrive d'être particulièrement touchée par des dossiers où tu sens que, on va dire, la distance professionnelle est parfois compliquée à garder ? Je sais pas si ça s'applique à ce que tu fais dans certains dossiers, mais est-ce que ça peut être le cas ?
Effectivement, ouais, moi j'ai pas trop d'affect, on va dire, avec les dossiers que j'ai, parce que, bon voilà, en faisant du droit immobilier, bon, le droit de la copropriété, le droit de la construction... bon, voilà, c'est une matière que enfin ce sont des matières que j'adore mais il y a pas vraiment ce côté affect avec le client. Après voilà, il y a des clients que je trouve très sympathiques mais c'est jamais des situations qui touchent vraiment à l'humain, on va dire. Donc finalement, j'ai pas trop ce problème là
C'était un choix, toi, de te diriger vers ces matières là pour ces raisons ou pas du tout?
J'ai fait le choix de me diriger vers ces matières là mais pas du tout parce que je voulais pas être proche de l'humain et tout ça, c'est vraiment plus parce que la matière m'intéressait. Et j'ai eu quelques dossiers en droit de la famille, mais je me rends compte que c'est hyper compliqué de réussir à prendre de la hauteur. Et puis, on est attaché aux gens. Et puis, je trouve que c'est compliqué. Après, voilà, j'aimerais beaucoup faire du droit pénal, donc peut-être dans les prochaines années. Mais c'est hyper dur de prendre de la hauteur avec tout ça. Que ça soit... encore plus, je pense, quand on défend les victimes, ça va être très compliqué de...
Oui, dès que ça touche, j'imagine, aux enfants.
Voilà, moi, je sais que j'aurais beaucoup de mal avec tout ce qui est enfants et tout ce qui touche aux violences conjugales. Mais bon, après, voilà, il faut aussi savoir être neutre. Oui, voilà. Mais après, c'est notre métier de défendre tout le monde. Il faut réussir à prendre ce recul, mais je pense que ça dépend vraiment des gens.
Ça se travaille, je pense, au fil des années. Enfin, je me dis que... Petit à petit, il y a peut-être des choses qui se sont mises en place de protection, on va dire, pour pas trop... Mais en même temps, je pense que ton humanité fait partie de tes qualités professionnelles. C'est pas parce que t'es avocat, mais comme un médecin qui dirait « bah non, je peux pas m'attacher au patient parce qu'on sait pas, il est malade, etc. » Je pense qu'il y a attachement et attachement. À partir du moment où ton humanité, elle sert tes compétences professionnelles... je pense que c'est important quand même dans les métiers comme ça.
C'est distinguer tout ce qui est l'empathie de la compassion, en fait. C'est-à-dire que quand t'es dans la compassion, t'es vraiment dans l'implication, mais même en psycho, on nous dit souvent, oui, il faut être... alors là, ce qu'on appelle la neutralité bienveillante, etc., et pas être du tout impacté, prendre de la distance, etc., etc. Bah, oui et non. Enfin, à un moment donné, moi, je me vois pas travailler sans mon empathie et sans. Enfin, il y a des histoires qui me touchent, mais encore heureux, en fait. Et des fois, on est touché. Enfin, et c'est ok, et c'est même un outil de travail qui est indispensable, et je dis à tous ceux qui travaillent avec de toute façon de l'humain et des gens, on peut pas vouloir travailler avec des gens et vouloir ne rien ressentir, en fait. Non, c'est pour moi c'est incompatible, c'est-à-dire que tu ressentiras des choses et c'est normal.
Oui.
Par contre, si t'es pas prêt à ressentir ces choses-là, ben juste peut-être que c'est pas un métier fait pour toi, en fait.
Mmh, oui, ou du moins peut-être qu'il y a des choses à mettre en place pour que ça ne t'affecte pas au point où...
Faut pas que ça soit devienne... envahissant.
Voilà, exactement. Oui,
faut pas que ce soit envahissant. Si ça devient envahissant, c'est que voilà, c'est que peut-être effectivement il y a des choses à faire. Mais par contre, oui, ça te touche et c'est ok que ça te touche.
Et heureusement, parce que finalement, c'est ce qui nous donne aussi envie. Ben voilà, quand on a une personne en face de nous qui nous touche, on a envie de se battre pour son dossier. Et après, effectivement, je pense que quand on n'arrive pas à prendre du recul, le mieux c'est de se dessaisir du dossier et de dire moi je peux plus intervenir parce que ça me touche trop. Mais quand même encore heureux qu'on est touché par ce qui se passe en face de nous, parce que sinon ce serait sinon ce serait que de l'administratif finalement, et ce serait pas intéressant.
Non, c'est vrai, complètement. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune étudiante que tu étais il y a quelques années?
Oula, question très compliquée. Mais je lui dirais de ne rien lâcher, mais de tout donner en fait, pour pas avoir de regrets, de réviser si j'ai envie de réviser, de prendre du temps si j'ai envie de prendre du temps. Mais peut-être, ouais, justement, je me dirais de réussir à prendre du temps pour moi et de me dire que si je révise pas pendant une heure de plus, c'est pas grave. Et que si je fais une sieste ou si je vais voir des copines, ça sera encore plus bénéfique que de réviser. Mais surtout, ouais, je me dirais de rien lâcher, parce que finalement, la vie des fois fait que on fait quelque chose qu'on n'avait pas du tout... prévu de faire. Et puis c'est ça aussi qui est bien, c'est de rien prévoir et de se laisser un peu
porter
exactement par la vie, et voilà,
c'est un beau message.
Mais juste peut-être un message à tous les étudiants en droit, mais à tous les étudiants de manière générale, de rien lâcher, de croire en tout ce qu'ils font, mais de réussir un peu à prendre de la hauteur et laisser un peu aller la vie et prendre du temps pour soi, parce que c'est important.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.